Sam ne znam.
Voilà, nous avons donc cet évangile qui raconte cette histoire des possédés du pays des Gadaréniens. Le pays des Gadaréniens, c'est au-delà du Jourdain, c'est de l'autre côté, c'est un pays païen, si vous voulez. Donc où seront Jésus, où seront le Christ. Et cet épisode est raconté par saint Marc et saint Luc aussi, avec d'autres précisions. Tantôt c'est deux hommes, tantôt c'est un seul, mais la fin est toujours la même. Jésus donc chasse les démons, et donc leur permet d'aller dans un troupeau de porcs qui se jette donc dans le lac. Et du coup, les habitants de ce pays demandent à Jésus de partir parce qu'ils ont peur pour la suite, ils ont peur de ce qui arriverait si Jésus restait là en ayant ainsi donc permis la disparition d'un troupeau de porcs, ce qui montre bien que c'est pas des juifs, si vous voulez. Voilà. Alors, quand on lit cet évangile, quand on l'entend, on est un petit peu surpris, si vous voulez, parce que qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il y a deux démoniaques, deux possédés qui ne parlent pas. Hein. Quand la première phrase que disent ces deux hommes, c'est pas eux qui les disent, c'est « Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps fixé ?» C'est les démons qui parlent, ils n'ont pas la parole. Et c'est pareil chez saint Luc et chez saint Marc, ils n'ont pas la parole. Ils sont habités, si vous voulez, par une force, une force qui parle à travers eux. Donc c'est la possession, c'est le phénomène de possession diabolique dont on parle quelques fois dans les évangiles. La possession diabolique qui est nommée aussi par le Christ, la possession par les esprits impurs. Alors aujourd'hui, si vous voulez, on a tendance à prendre ces évangiles, ces péricopes à la légère, parce que finalement, évidemment, pour nous, au XXIe siècle, en Occident, la possession diabolique est quelque chose qui est un peu incroyable, si vous voulez. D'ailleurs, il y a des films qui sont faits, des films d'horreur, généralement. L'Exorciste, qui avait été fait il y a 40 ans, au moins de ça, qui terrorisait. Oui, ici, quand même, les spectateurs dans le cinéma, en montrant l'horreur de la possession diabolique, ceux qui ont le fait, la fille possédée tournait la tête à 360 degrés, elle bavait une soupe de verre, et puis enfin bon, tout ce que décrit le film, qui fait que c'est un peu du grand guignol, si vous voulez, d'une certaine façon. Et à la cathédrale Saint-Irénée, il y avait deux prêtres exorcistes, qui sont morts l'un et l'autre maintenant, ils sont nés au ciel. Mais effectivement, les exercices qu'ils faisaient étaient terrorisants. Je me rappelle un souvenir que j'ai d'une répétition avec mon ensemble vocal que j'avais faite dans la bibliothèque de Saint-Irénée. Et il y avait l'un des deux prêtres, je ne nomme pas, qui faisait un exorcisme dans la crypte. Ceux qui connaissent Saint-Irénée, la bibliothèque et la crypte étaient assez éloignés. Et on entendait les hurlements de la personne qui était exorcisée. Et les gens de mon ensemble vocal disaient mais c'est affreux ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe là? C'est monstrueux, on ne reviendra pas ici, surtout pas, c'est absolument terrible ça. Voilà, bon, donc ça nous choque, si vous voulez, cela nous choque. On n'aime pas trop, ça fait un peu du guignol, c'est ce que je disais, et on a l'idée que ça ne nous concerne pas. Qui est possédé aujourd'hui? Est-ce que vous en connaissez des possédés vraiment, qui seraient un petit peu comme ces Gadaréniens qui sont décrits par saint Matthieu, saint Marc et saint Luc? Ben non, enfin moi je ne connais pas en tout cas, et probablement que vous non plus. Et pourtant, il faut s'interroger sur quelle est la possession, en quoi sommes-nous victimes de la possession diabolique, sans aller jusqu'au comportement de ces Gadaréniens qui vivent dans les tombeaux. Symboliquement, on en reparlera parce que c'est aussi l'évangile du 23e dimanche après la Pentecôte. Donc on en parle juste avant Pâques. Donc on en reparlera, si vous voulez, que symbolisent les tombeaux, que symbolisent les chaînes, etc. On en reparlera de ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du fait que nous sommes tous concernés par la possession. La possession diabolique, qu'est-ce que c'est? C'est une aliénation, c'est l'aliénation. Vous voyez, comme je vous le disais, ces deux hommes ne parlent pas, ils ne disent rien. Ils sont animés, mus par une force qui n'est pas eux-mêmes, par une, par un autre, par l'autre, mais l'autre mauvais, l'autre méchant, l'autre négatif, si vous voulez. Et donc, l'aliénation, c'est la perte de la liberté. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Vous voyez, je crois que c'est important, c'est de bien comprendre que le possédé n'a pas sa liberté. Il est contraint, il est obligé. La force qu'il a en lui le dépasse complètement, complètement. Et les pères disent souvent que, effectivement, les démons sont d'une très, très grande puissance. Et qu'ils provoquent l'aliénation en nous. Et donc, les possédés qui n'existent pas par eux-mêmes, ça veut dire qu'effectivement, ils ne sont pas libres, qu'ils sont soumis à cette force intérieure, qui les dépasse, qui les dépossède d'eux-mêmes, et qui les contraint donc, à un certain type de comportement et à un certain type de parole éventuellement. Ils sont contraints. Voilà. L'absence de la liberté. La possession, c'est l'absence de liberté. C'est l'aliénation, au sens propre du terme, justement. Et alors, en quoi cela nous concerne-t-il ? En quoi sommes-nous concernés par ça ? Eh bien, nous sommes concernés par ça parce que qu'est-ce que nous vivons nous-mêmes ? Alors, je dis nous, au sens général, nous, les êtres humains, hein, bien sûr. Nous vivons des addictions. Et les addictions, qu'est-ce que c'est sinon une absence totale de liberté ? Les addictions à l'alcool, à la drogue. On en parle, ça, dans les prières, après l'évangile, dans la litanie ardente. L'alcool, la drogue. Mais le tabac, c'est une forme d'aliénation, d'addiction aussi. Le sexe, avec tout ce que ça implique, hein, de pensées négatives, d'aller voir à la télévision des images qu'on ne devrait pas voir. Et on se sent contraint, tous les, on sent qu'on n'est pas vraiment libre. On dit « je ne voudrais pas », il n'empêche qu'on cède, on n'est pas libre. Donc la drogue, l'alcool, le tabac, le sexe, tout ce qui est les distractions qui nous éloignent, qui nous écartent de Dieu. Et là, nous ne sommes pas libres. Et donc, ces addictions, les pères de l'Église, qui ne connaissaient pas le mot addiction, les appellent des passions. Et la passion, qu'est-ce que c'est ? C'est un état intérieur où la liberté est inexistante. Quand on est passionné, quand on a une passion, je ne parle pas des bonnes passions, car il y a des bonnes passions aussi, bien sûr. Quoique, même les bonnes passions, on n'est pas totalement libre, mais bon, peu importe ça. Je parle des mauvaises passions. Les mauvaises passions qui sont dénoncés par les pères de l'Église. Et saint Philothée du Sinaï disait que qu'est-ce que c'est que la passion ? Et donc, là, qu'est-ce qui montre la présence d'esprit diabolique, d'esprit impur en nous ? Eh bien, c'est le péché répété souvent, qui devient une habitude de vie. La passion, c'est ce qui est tapis, c'est ça. Donc, c'est un Philothée du Sinaï qui dit ça. La passion, c'est ce qui est tapis, caché dans notre âme, sur une longue période. Et on n'est effectivement pas libre. Vous voyez, il y a des catalogues des passions qui ont été faites. Hein. Saint Jean Cassien, reprenant Évagre le Pontique, hein, donne huit logismoi, comme il l'appelle, huit passions, en fait, qui sont les huit passions fondamentales de l'être humain, qui sont dans l'ordre croissant, la gourmandise, hein, tout ce qui concerne ce qu'on appelle en grec la porneia, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sexualité, la libido déviée, allant vers d'autres choses, vers des pensées, des imaginations, etc. Troisièmement, l'avarice, hein, l'envie, la jalousie, tout ça, ce sont des passions, la gourmandise. Même la gourmandise, quelqu'un dit « je ne peux pas résister au fait de manger du chocolat, je ne peux pas résister ». Eh bien, il y a une absence, il y a une contrainte là. Donc, gourmandise, la libido mal orientée, l'envie, la jalousie, l'avarice, qui concerne surtout le corps. Ça concerne, les pères disent il y a que l'âme, dans l'âme humaine, il y a trois parties. Il y a deux parties qui sont des parties passives, qui sont le désir et l'irascibilité, qui sont des parties de l'âme qui sont bonnes en soi. Le désir, c'est-à-dire l'éros, qui devrait nous amener vers Dieu, qui devrait faire que nous grandissions dans l'amour de Dieu. Mais cet éros est détourné pour justement satisfaire nos désirs égoïstes, égocentrés. Donc l'éros, cette partie de l'âme donc, qui est donc ainsi détournée de sa vocation. Et l'irascibilité, qui est l'autre partie, comment dirais-je, appétitive de l'âme, l'irascibilité qui, au lieu de lutter pour la vertu, pour grandir en Dieu, nous fait nous tourner vers les autres et détester les autres, haïr les autres, être dans le jugement. Et donc, c'est l'âme qui souffre. Et c'est l'âme que les démons, c'est dans l'âme que les démons viennent entrer, viennent pour agir, si vous voulez, et pour perdre notre liberté. Et la troisième partie de l'âme, c'est la partie intelligente de l'âme, le nous, si vous voulez, disent les pères. Mais cette partie aussi est détournée, parce que le nous est fait pour contempler Dieu, pour être uni à Dieu. Or, le nous devient de l'orgueil, de la vanité. Et donc, nous souffrons ainsi de, je répète, la gourmandise, la pornéia, c'est-à-dire donc la sexualité mal orientée, l'avarice, le désir, la jalousie, la colère, la tristesse, la tristesse aussi, l'assédie, qui est ces périodes où nous ne voulons plus penser à prier, on se fige de tout, on ne veut plus rien, on ne veut plus rien d'autre, on veut que s'asseoir là et rester là, ne plus bouger, tellement on en a ras-le-bol de tout, tellement c'est insupportable, tellement la vie est insupportable, on est complètement prostré intérieurement par justement ce détournement de Dieu et ce ras-le-bol de tout. C'est un peu la dépression que connaissent beaucoup de gens aujourd'hui, l'assédie. Et puis les deux dernières, qui sont qui concernent la partie donc réflexive de l'âme, la vanité et l'orgueil. Et l'orgueil est la plus importante de tout, parce que c'est la partie donc intellectuelle de l'âme, la partie, c'est le nous de l'âme qui est détourné de son but dans ce cas-là. Et c'est là que les démons viennent, si vous voulez, que les démons se mettent, que nous sommes tous possédés, plus ou moins, grâce à Dieu. Si vous voulez. Mais comprenons bien que ces histoires de possédés que guérit le Christ, c'est aussi notre histoire à nous. C'est nous qui sommes concernés. C'est pas des gens comme ça, si vous voulez, au hasard, dont on dit oh, mais c'est du grand guignol, tout ça, c'est pas possible. Mais si c'est possible. Et même si nous ne sommes pas comme les possédés, nous sommes nous-mêmes possédés par ces esprits impurs, comme les nomme le Christ. Ces esprits impurs qui agissent en nous, qui nous font perdre notre liberté par la répétition des mêmes erreurs, des mêmes péchés, des mêmes fautes. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? C'est que donc les démons sont présents, ils agissent en nous et ils nous poussent, je dirais, à nous détourner du chemin de la vie, du chemin de la lumière, c'est-à-dire de Dieu. Ils nous poussent à cela et nous ne résistons pas. Au nom de quoi? Au nom de notre égoïsme. Les pères disent que la source de toutes les passions, la source de tout, et la porte qui permet aux démons d'entrer dans notre âme et de nous agiter comme ça, c'est l'égoïsme, c'est l'amour de nous-mêmes, la philotia, comme disent les pères aussi, l'amour de soi-même, l'égoïsme, qui fait que effectivement, tout est centré sur moi, c'est moi qui compte à mes yeux, et le reste je m'en fiche, si vous voulez. Et c'est par là que les démons entrent. Donc l'égoïsme, cet amour excessif, passionnel de soi, cet amour monstrueux de soi qui fait que nous pensons comme le centre du monde et comme quelqu'un qui a besoin d'être toujours satisfait, d'être toujours heureux, d'être toujours comblé, tant pour la bouche que pour la sexualité, que pour les pensées, que pour etc. Enfin, tout ce qu'on a dit là, on veut toujours être comblé. Et c'est ça qui est la source de tout, si vous voulez. C'est par là que les démons entrent. Alors comment faire? D'abord, et c'est l'évangile qui nous le montre là, c'est le fait de se rendre compte que c'est le Christ qui guérit. C'est le Christ qui guérit. Et lui seul guérit. Si vous voulez. Vous remarquerez qu'il n'a pas de pensée, il n'a pas de parole de méchanceté, enfin de colère contre les démons. Les démons le disent, ne nous tourmente pas, laisse-nous partir. Ils ont dit, allez-y, fais tout. Vous voyez, il n'y a pas de... le Christ ne se met pas en colère contre les démons, il les chasse, il les chasse. Et les pères disent qu'il faut faire très attention dans la lutte contre les passions, dans la lutte contre les passions. Pourquoi ? Parce que quand on se libère d'une passion, qu'est-ce qui se passe ? Quand on se libère d'un démon, donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le démon qui est parti, il se dit, c'est le Christ qui le dit, hein, il trouve que l'âme est bien nettoyée, bien propre, bien belle, bien vraie. Donc il revient en amenant avec lui d'autres, si vous voulez, et il s'installe. Donc les pères disent, attention à la lutte contre les passions, faut pas faire n'importe quoi. Et il faut penser que jusqu'à notre mort, nous aurons à lutter contre ces passions pour notre liberté d'aller vers la lumière et vers Dieu. On aura toujours à lutter, sur le, toujours, toujours, toujours. Parce que les passions sont là pour que nous grandissions, acquérions l'humilité. Voilà. Alors donc c'est le Christ qui guérit. Mais la guérison du Christ, la guérison de la grâce, la guérison divine n'est pas suffisante. Enfin, pas suffisante. Comment est-ce que je peux dire un truc pareil ? Elle doit être complétée par nos efforts à nous. Toujours cette synergie entre la divinité et l'humanité, entre le Christ et chacun d'entre nous, entre Dieu et l'homme, la synergie. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire ? Eh bien, à prendre conscience, combien nous sommes égocentrés, combien nous sommes justement dans l'égoïsme, dans le désir de la satisfaction de tout ce que nous voulons. Prendre conscience de cela. Et l'écueil, le danger, c'est l'oubli. C'est ce que disent aussi les pères. L'oubli, le fait qu'on ne fait pas attention, le fait qu'on n'est plus du tout dans la conscience. Et donc, le fait de veiller, d'être dans la vérité. Et la vérité, je vous le rappelle, c'est aletheia en grec. A privatif, l'étéia, l'été, léthargie, donc sommeil. Donc ne pas être dans le sommeil, ne pas être dans la léthargie, être réveillé, c'est-à-dire être dans la vérité. Et donc être attentif, être conscient, ne pas nous laisser gagner par l'oubli, par le fait de dire « oh, je pense à autre chose, c'est vrai ». Mais même quand on se détend en lisant un roman, le faire avec la présence du Christ en nous, même quand on est dans la distraction, c'est-à-dire quand on n'a pas de soucis, garder la conscience de la présence du Christ, de la présence de Dieu en nous. Dieu est présent, le Christ est présent tous les jours, à chaque instant et jusqu'à la fin des temps. Quel que soit notre être intérieur, quel que soit notre péché, le Christ est présent avec amour pour nous accompagner dans la profondeur de notre souffrance, dans notre profondeur. Quelle que soit notre addiction, le Christ nous accompagne. Il nous accompagne pour que justement nous arrivions à peu sortir de cela. Il est présent. Ne pas l'oublier, ne pas le laisser de côté. Le Christ est présent en toute chose, en tout être, en toute situation. Absolument en tout. Donc, rappelons-nous ça, réveillons-nous en ce sens-là. Et puis, la deuxième chose, je dirais, c'est... j'ai oublié. La vigilance, c'est l'humilité. L'humilité. Saint Jean Climaque, Saint Jean Cassien et Saint Silouane de Latos, tous les trois, il y en a d'autres, qui disent que seule l'humilité peut vaincre les démons en nous, seule l'humilité. Et l'humilité, c'est vraiment dire, par moi-même, je ne peux rien. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux me délivrer, mais j'ai confiance. Et je dirais, je conclurai sur ce point, que dans cette lutte perpétuelle qu'est la vie chrétienne, la vie spirituelle, cette lutte contre les passions, contre les démons, contre la possession, contre la perte de la liberté en nous, contre la contrainte, contre l'aliénation, la lutte pour lutter, je vous donne trois mots qui me semblent très importants, qu'il faut expérimenter. Il faut que vous les expérimentiez en vous, ça, hein, ces trois mots. Mais je crois que c'est ça. Le premier mot, c'est confiance. Confiance. Nous ne sommes jamais seuls dans le combat. Et même dans la chute, même quand nous cédons, même quand nous sommes vaincus, nous ne sommes pas seuls. Le Christ est présent avec nous dans notre défaite, dans notre chute, il est présent, il est là aussi, il est là aussi. Confiance, la première chose. La deuxième chose, c'est le courage. Le courage parce qu'il faut effectivement lutter. et que ce n'est pas facile de se rappeler, de faire mémoire constamment du Christ en nous, de faire constamment mémoire de Dieu dans notre vie. Ça manque du courage. Hein. Et le Christ dit, quand ton œil te scandalise, arrache-le, arrache-le. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on est, par exemple, devant des images, prenons ça, si vous voulez, c'est le plus simple. Hein. Il y a plus compliqué, mais prenons des images. Des images, des images de violence, des images sexuelles, des images de méchanceté, tout ce que vous voudrez, et qui nous fascinent un petit peu, qui nous fascinent. Hein. On est fasciné par ça. Qu'est-ce que ça veut dire arracher son œil? Ça veut dire détourner le regard. Détourner le regard de cela. Donc, regardez ailleurs. Arracher son œil, c'est regarder autre chose, si vous voulez. Regarder quelqu'un. Regarder intérieurement, peut-être, le visage du Christ en nous. Ou regarder ailleurs, en tout cas. Mais ça demande du courage, parce qu'il faut lutter. Parce que justement, on est accroché par l'image, ou par la situation. On est accroché. Il faut du courage. Donc, la confiance, le courage pour lutter. Parce que nous ne sommes pas seuls, justement. Et troisièmement, la patience. La patience. Ça ne se fait pas en un seul jour. C'est à travers toute notre vie que nous sommes confrontés à cela. La patience qui fait que Dieu est patient avec nous et que nous pouvons être nous-mêmes patients avec nous-mêmes et avec les autres aussi. Et avec les autres aussi. Quand nous sommes dans l'impatience, rappelons-nous que le Christ n'a pas eu d'impatience lorsqu'il était donc torturé, insulté, maltraité par les soldats romains, lorsqu'il a eu cette épreuve terrible du fouet qui déchire les chairs absolument, car les fouets romains, c'est des bouts, il y a des bouts d'os et il y a des bouts de ferraille, ça déchire les chairs absolument. Le Christ a vécu ça sans s'en prendre aux soldats, sans les maudire. Et quand il était cloué sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. La patience du Christ. Hein. La patience du Christ que nous devons demander pour nous-mêmes. Hein. Donc, c'est ce que je vous souhaite, hein, ce que je nous souhaite à tous, c'est de garder le courage, hein, pardon, la confiance, hein, le courage et la patience. Amen.